13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes le mercredi 2 janvier 2019, l'occasion pour moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2019. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle année que je vous souhaite heureuse et agréable et plein de bonnes choses avec vous. Omblina, on va passer toute l'année ensemble, ça commence déjà très bien.
Ça commence très bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Nous sommes ensemble et en direct donc comme chaque jour jusqu'à 16h et puis aujourd'hui pendant 7h, comme vous le savez, nous partageons vos expériences de vie car votre vécu nous intéresse. Le cerveau a parfois ses raisons que la raison ne connaît pas. Il arrive que la mémoire défaille, il peut oublier des pans de notre vie et parfois presque une vie entière. Dans le cas des amnésies traumatiques, le cerveau disjoncte en quelque sorte pour se protéger. Dans le cas des victimes de violences sexuelles ou d'événements très violents, la terreur est telle que le cerveau l'occulte complètement. Il déconnecte. Sauf que ces souvenirs peuvent revenir des années après, parfois même 20 ou 30 ans plus tard. D'autres ont de véritables troubles de l'identité. Ils se réveillent dans un corps qu'ils ne connaissent pas, entourés de proches inconnus. Que se passe-t-il dans le cerveau quand on parle d'amnésie ? Peut-on retrouver la mémoire ou peut-on faire sans ? Aujourd'hui sort au cinéma un film sur ce thème. Bienvenue à Marouen, réalisé par Robert Zemeckis, un film dont Europe 1 est partenaire.
J'étais un sacré bon artiste, illustrateur de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'arrive à peine à écrire mon nom.
J'ai appris ce qui vous était arrivé.
Ils lui sont tombés à 5 dessus. C'est un miracle qu'il ait survécu.
Ils ont rayé de ma mémoire le moindre de mes souvenirs. Tout ce qui date d'avant l'agression a disparu. Donc c'est à mes poupées de raconter l'histoire. À la vie, à l'amour et aux femmes de Marouen.
Amnésie, comment continuer sa vie ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et nous sommes là aussi avec plaisir pour vous lire sur Facebook. N'hésitez pas à réagir sur le groupe, sur la page d'Europe 1, sur Twitter, hashtag Europe 1 et pour nous appeler 3921.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Jacques Michel. Bonjour Jacques Michel, vous êtes notre premier auditeur sur Europe 1. Bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment
merci
allez-vous?
Merci beaucoup de nous recevoir sur Europe 1. Ça va très bien,
je vous
merci.
En prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 61 ans.
Oui.
Et je vous appelle de Nancy.
De Nancy. Alors Jacques Michel, en juin 1987, il vous est arrivé quelque chose de totalement incroyable. Vous avez disparu en Lorraine et vous vous êtes réveillé à Paris. Et là, impossible de savoir qui vous étiez. Quelles ont été vos premières pensées lorsque vous vous êtes réveillé là ? Je crois me souvenir que vous m'avez dit vous êtes réveillé place de l'Opéra. Oui. Vous avez pensé à quoi ?
Un vide d'abord, comme si c'était, je me suis réveillé comme si c'était un rêve, avec une brume devant les yeux. Je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais devant moi, donc j'ai vu des colonnes et ces colonnes, j'ai fait le rapport en disant tiens, c'est l'opéra. Et j'ai tout de suite fait le rapport comme quoi l'opéra, j'étais donc à Paris. Mais j'avais un trouble latent et je me suis examiné rapidement, comme si j'examinais le corps d'un autre. Et je me suis très très rapidement aperçu, sans avoir notion du temps, mais dans les minutes qui ont suivi ou dans les heures qui ont suivi, je me suis aperçu d'une chose dramatique, c'est que je ne savais plus qui j'étais.
Qui vous étiez, ouais.
J'étais, mais je ne savais plus qui j'étais.
Alors, dans ces premiers instants, comment vous a-t-on pris en charge ?
Alors, on ne m'a pas pris en charge tout de suite, disant que je m'étais posé des questions, donc assis sur un banc, donc face à l'opéra.
Oui.
C'était mon refuge, avec du coin de l'œil, j'avais repéré une cabine téléphonique. Et j'étais persuadé que j'étais descendu de chez moi ou sorti de chez moi pour attendre un coup de téléphone. Donc, j'attendais que le téléphone sonne. Et je dormais dans cette cabine et j'espérais qu'il allait sonner. Mais ce n'est pas la sonnerie du téléphone qui m'a réveillé, ce sont des policiers qui m'ont réveillé en tapant sur l'épaule en me disant « Bonjour monsieur, contrôle d'identité.
» Et évidemment, là, vous n'aviez aucun papier sur vous ?
J'avais aucun papier sur moi.
Bon.
J'ai déjà fouillé, je n'avais rien, j'avais aucun indice sur mon identité.
Alors ensuite, vous êtes retrouvé... vous vous êtes retrouvé au commissariat et ensuite vous avez été conduit à l'hôpital Sainte-Anne, où vous avez passé plusieurs mois, hein, où on a essayé parce que rien ne revenait. Racontez-moi comment on a retrouvé votre identité.
Alors les médecins, que je pensais vraiment qu'ils ne s'occupaient pas de moi, en réalité je me trompais, puisqu'un professeur est venu me voir un matin pour me dire que depuis longtemps il était en train de m'examiner à distance via les infirmiers, et il avait déjà vu que je peignais relativement bien, il avait remarqué que j'avais un accent et des expressions qui venaient de l'Est de la France, comme patin, comme cornet, comme des choses comme ça, mais il n'en savait pas plus, et rien ne donnait rien. Donc il m'a proposé des séances de narcose à base d'un produit relativement fort qui aujourd'hui est interdit, qui s'appelle le pain total, c'est le sérum de vérité.
D'accord.
Et il m'a prévenu que les séances seraient dures, mais qui me donneraient les résultats à mon réveil. Et il a fallu 3 séances pour que je me réveille devant le professeur, qui avait un large sourire, en me disant « Écoute, je crois qu'on t'a retrouvé, on est sur la bonne voie, dans ta narcose ». Suite à un test de questions-réponses, au mot ami, tu as répondu un prénom qui pouvait me faire penser à Charles Lévy. Je t'en dis pas plus pour le moment et tu verras ce qu'il en est, mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
Alors la suite de l'histoire est assez incroyable puisque Charles Lévy n'est autre que Charles Lévy Couture, le chanteur, qui à l'époque habite aux États-Unis. L'hôpital rentre en contact avec Charles Lévy Couture, qui prend très au sérieux cette histoire et vient vous visiter à Nancy. Et finalement, on vous retrouve grâce à lui qui vous reconnaît, qui dit mais j'étais en fac avec cet homme. Je me souviens très bien de lui. J'ai même fait de la musique. Et vous voilà retrouvés. Et il va y avoir ces retrouvailles avec votre femme et vos parents. Comment se passent ces retrouvailles?
Alors, Charlie étant venu, m'a assuré de son amitié et de m'aider à l'extérieur, chose qu'il a fait, puisqu'il a joint donc les Beaux-Arts de Nancy. Mmh. Les Beaux-Arts de Nancy, avec les anciens élèves, donc, ont vu qui j'étais. Et donc, la police a été informée que j'avais été retrouvé. Et mon épouse a été informée de mes retrouvailles. Et mes parents et ma femme sont venus me retrouver donc, à l'hôpital 122 jours après ma disparition.
Alors, 122 jours après votre disparition, vous voyez apparaître une femme que vous décrivez comme très jolie, et puis un couple de personnes plus âgées, mais vous ne reconnaissez personne.
Je ne connais personne. Donc, un médecin est venu me chercher dans la salle d'art-thérapie où j'étais en train de peindre, pour me dire, au lieu, parce qu'on m'appelait Monsieur X, et là, cette fois-ci, ils ne m'ont pas appelé Monsieur X, ils m'ont appelé Jacques Michel. Oui. Et donc, je me suis vite aperçu que c'est moi qui l'étais en train d'apostropher. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Jacques Michel, c'est bon, ton pote Charles Lévy a fait du bon boulot, on t'a retrouvé, suis-moi dans le petit salon, le prof t'attend, avec tes parents et ta femme.
Mmh. Et à l'énoncé de ce Jacques Michel, parce que Jacques Michel, c'est comme Charles Lévy, ce ne sont pas des prénoms courants. Jacques Michel, non, aucune étincelle, rien, aucune réaction. Hein.
Rien du tout, l'infirmier m'a répété, c'est ton prénom et on t'a retrouvé, donc suis-moi, tes parents et ta femme sont là. Et là, je l'ai suivi effectivement comme un zombie, en disant, au lieu de sauter de joie par rapport à cette nouvelle, j'ai été pris plutôt d'une angoisse.
Ouais. Alors Jacques Michel, restez en ligne avec nous. On va justement parler dans quelques minutes de ces retrouvailles avec votre femme et avec vos parents.
Europe 1. Comme Jacques Michel, vous avez été victime d'amnésie, une période de votre vie, parfois très longue, qui disparaît de votre mémoire sans laisser de traces. Racontez-nous comment se passe votre quotidien. On vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute. Écrivez-nous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons de l'amnésie dont les raisons sont multiples, qui prend plusieurs formes. Vous témoignez, vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Nous sommes toujours en ligne donc avec Jacques Michel qui nous racontait cette histoire incroyable. Hein, 122 jours sans savoir qui il était. Et puis il se retrouve devant cette jeune femme que vous décrivez donc Jacques Michel comme une jeune femme qui vous plaît au premier abord. Lorsque votre femme arrive à l'hôpital, racontez-moi comment ça se passe.
Quand je suis rentré dans ce bureau et que j'ai vu donc ces deux personnes que je considérais âgées, mais enfin ils étaient sûrement pas si âgés que ça parce que j'ai le même âge qu'eux à l'époque, et la petite femme brunette, et je regardais plus leurs yeux Et dans les yeux des personnes âgées, je voyais de la peine, peut-être de l'espoir également. Et dans celle de Martine, donc la petite brune, qu'on me présentait en tant que ma femme, je voyais des étincelles de joie. Elle voulait absolument aller vers moi et me serrer fort dans ses bras. Mais pour moi, c'était que des étrangers. Et quand ils ont eu le mouvement d'approche vers moi, j'ai eu un instant de recul.
Bien sûr.
Pour moi, c'était des étrangers, je ne les reconnaissais pas. Ça, c'était plus horrible que tout, puisqu'on me disait que c'était les miens. On leur avait demandé de venir avec des photos. Ils m'ont montré très rapidement les photos pour me dire, tu vois, c'est bien toi, c'est pas une bêtise. C'est réellement, c'est toi avec les enfants. Parce qu'en plus de ça, on me disait que j'avais deux enfants. Mmh. C'est toi à ton mariage, c'est toi en première communion, c'est toi bébé, c'est toi avec papa, c'est toi avec maman, etc. Je ne pouvais pas nier l'évidence, c'était bel et bien moi et c'était bien mon passé que j'avais devant moi. Mais je n'avais que des étrangers et c'était des photos vides de sens pour moi. Et j'ai replongé dans une crise d'angoisse et ils ont arrêté la séance pour me calmer. Donc ils sont partis et on m'a promis après qu'ils allaient revenir me chercher pour que je puisse me reconstruire au sein de cette famille.
Alors, il y a eu un délai de combien de semaines avant que vous réintégriez votre foyer et que vous recommenciez bien votre vie aux côtés de vos enfants et de votre femme ?
Il y a eu à peu près un mois d'hospitalisation complémentaire, le temps de me préparer à cette sortie. Et moi, j'étais content de retrouver cette petite brune que je trouvais fort sympathique, mais c'est la seule résonance que j'avais envers elle. J'avais pas d'amour, j'avais juste une attirance.
Vous réappreniez à connaître toutes ces personnes, y compris vos enfants, si j'ai bien compris.
Ah oui, il fallait que je réapprenne à connaître tout le monde, à connaître ces étrangers et les accepter comme étant les miens. Et ça, c'est toute notre histoire. Donc, quand ils m'ont emmené, le professeur avait dit, ne t'inquiète pas, c'est avec ta famille que tu vas avoir un déclic. Comme Proust l'a écrit, il a écrit les petites Madeleines de Proust, et avec un son, une odeur, je devrais retrouver d'un seul déclic l'ensemble de ma mémoire, puisque je n'avais qu'une amnésie identitaire. Je me souvenais de tout le reste. Je me souvenais de ce que j'avais appris, de l'enseignement, d'être correct. Je savais écrire, je savais lire. Je reconnaissais Napoléon en ouvrant un livre d'histoire à l'hôpital. Et je n'étais pas capable de reconnaître les miens quand ils étaient devant moi. C'était complètement fou. Ça pouvait être que angoissant.
Parce que vous avez fait les Beaux-Arts. Hein, vous aviez une formation aussi qui vous a mené à faire le métier d'architecte. Toutes ces choses-là, ce qui est incroyable, c'est que vous ne les aviez pas oubliées. Or, ce qui devrait être le plus important, c'est-à-dire les enfants, la famille, tout ça était anéanti. Ça a été dur, ça a pris combien de temps avant que vous repreniez vos marques avec votre famille ?
Ça a été d'une violence incroyable, et pour eux, j'en suis certain, mais également pour moi. Mais je me sentais, moi, le seul handicapé, le seul malade. Donc c'est moi qu'il fallait comprendre, c'était pas à moi de comprendre les autres.
Bien sûr.
Et donc j'ai fait cette erreur pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je refusais ce monde qui m'entourait, je refusais le passé qui me redonnait gentiment, mais qui pour moi était un passé livresque vu uniquement par leurs yeux et par leur ressenti. Oui. Et moi, je n'avais pas ce ressenti de passé, donc je l'acceptais pas.
Je suppose que vous en avez eu marre souvent qu'on vous parle sans cesse de votre vie d'avant, de choses dont vous n'aviez aucun souvenir. C'est ce qui a été le plus dur, ça.
Je le supportais plus du tout. Je le supportais pas parce que j'avais l'impression qu'ils voulaient me reconstruire comme ils avaient envie que je sois.
Vous avez eu envie parfois de repartir à zéro et puis de ne pas accepter cette vie qu'on vous proposait, même si vous saviez que c'était les vôtres, mais de se dire il m'est arrivé ça, il va falloir que je reparte à zéro parce que ça c'est plus possible.
C'est certainement ce qu'il aurait fallu que je fasse beaucoup plus tôt, mais j'ai malheureusement perdu 3 ans avant de le faire. Et c'est Martine qui m'a donné ce déclic pour aller de l'avant. Elle m'a dit un soir, arrête de regarder sans arrêt derrière, tu vas t'éclater contre le premier arbre que tu auras devant. Tu ne te rends pas compte qu'à la recherche de ton passé, tu oublies ton présent actuel qui demain fera partie de ton nouveau passé.
Alors malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour continuer. Vous avez voulu raconter votre histoire dans un livre qu'on trouve toujours aux éditions Michel Lafon. J'ai oublié 30 ans de ma vie. Et je dois dire que dedans, on voit combien Martine, votre femme, a été d'une importance capitale. Tout simplement parce qu'elle était folle amoureuse de vous et qu'elle ne vous a jamais lâché. Je sais que la question qu'il y a dans la tête de chacun des auditeurs qui nous écoutent là, c'est est-ce que vous avez fini par savoir ce qui vous est arrivé, Jacques Michel ? Pour que vous vous retrouviez comme ça un matin face à l'opéra ?
Tout à fait. Alors, une enquête de police qui s'est passée plusieurs années plus tard, et heureusement qu'elle s'est passée, parce que j'avais toujours cette suspicion à savoir, est-ce que c'est moi qui me suis trahi par rapport à un mauvais pas? Est-ce que je suis tombé tout seul? Est-ce que j'ai pété les plans simplement tout seul, comme un burn-out ou n'importe quoi? Donc, j'avais plus confiance en moi. Jusqu'au jour où on m'a annoncé qu'on a retrouvé mon agresseur. Et je me suis fait donc agresser bêtement devant chez moi, un soir, en voulant rentrer ma voiture au garage. Oui. Martine a fait coucher les enfants, je devais rentrer immédiatement. Et quelqu'un m'a volé ma voiture, et en volant ma voiture, il m'a frappé très fort. Et il ne m'a pas volé que ma voiture, il m'a volé mes 30 premières années de vie.
Mmh. Il vous a mis dans le coffre de cette voiture, et il est parti à Paris avec votre voiture.
Jacques Michel... Il m'a déposé loin de chez moi, oui, tout à fait. Oui.
Jacques Michel, merci pour votre courage, pour votre appel et votre témoignage au 3921. Nous allons continuer à parler de l'amnésie et essayer de comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau avec le professeur Francis Stache. Il est directeur d'une unité de recherche à l'INSERM à Caen, spécialisée dans les maladies de la mémoire. Je rappelle que votre livre est toujours trouvable chez Michel Lafon, oui. Jacques Michel. Et je vous souhaite une très bonne année à vous, à Monique et à tous les enfants.
Europe 1.
Vous avez été victime d'amnésie, c'est le cas de l'un de vos proches. On vous écoute au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et le prénom de la femme de Jacques Michel.
C'est Martine.
C'est Martine. A tout de suite sur Europe 1 avec Olivier Delacroix. Victime d'amnésie, comment reprendre en main son quotidien? Comment faire quand la mémoire fait défaut? C'est votre cas. L'un de vos proches, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler.
Et nous sommes maintenant en ligne avec le professeur Francis Stache, directeur d'une unité de recherche à l'INSERM à Caen, spécialisé dans les maladies de la mémoire. Bonjour docteur, et merci Bonjour. D'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Vous venez d'entendre le cas de Jacques Michel, qui semble rarissime. Comment s'explique-t-il?
Tout d'abord, je voudrais saluer Jacques Michel et Martine, sont deux personnes que je connais bien à titre amical et que j'aime beaucoup. On se rencontre de temps à autre et on a le loisir d'échanger. Mmh. Eh bien, effectivement, Jacques Michel Huret, bon, c'est une histoire singulière, mais j'ai envie de dire tous les patients amnésiques ont des histoires singulières. Les patients amnésiques ont ce qu'on appelle une amnésie entérograde, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à apprendre des informations nouvelles, et puis ils perdent un petit peu les informations du passé. Et dans le cas de Jacques Michel, bien c'est le contraire, c'est une amnésie rétrograde extrêmement importante, disproportionnée,
oui.
Qu'on appelle parfois l'amnésie d'identité, c'est-à-dire que ce qui est marquant chez Jacques Michel, c'est que bon, quand il se retrouve devant l'Opéra de Paris, il ne sait plus qui il est. Et comme il n'a pas ses papiers, il n'a aucune trace de lui-même pendant... à cette époque, il a une trentaine d'années, comme il vient de l'expliquer tout de suite. Il en a 60 maintenant, parce que ça s'est passé il y a longtemps. Et donc, il a oublié comme ça tout son passé. Alors, ces formes d'amnésie d'identité, certaines portent sur des périodes plus courtes, ça peut être quelques années, quelques dizaines d'années. Bon, dans le cas de Jacques Michel, c'est toute sa vie, il a oublié toute sa vie. Et dans certains cas, c'est transitoire, c'est-à-dire que les personnes tout d'un coup vont retrouver le passé perdu. C'est pour ça qu'il y a toute une période où la famille et puis les thérapeutes proposent des histoires aux patients, des histoires qui permettent de leur faire retrouver leur autobiographie, leur montre des photos, des films, etc., pour qu'il y ait en quelque sorte un déclencheur. Et dans certains cas, c'est positif. Et malheureusement, chez Jacques Michel, toutes ces démarches ont été faites. Il vient de le redire, ça a duré pendant 3 ans, où sa famille, très bien attentionnée évidemment, a essayé de lui redonner ce fil conducteur de sa vie, et puis ça n'a pas marché.
Ouais, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Donc à un moment donné, c'est là que le lien dans le couple a été très fort, c'est qu'à un moment donné, en fait, il a fallu reconstruire autre chose. Tirer un trait, en quelque sorte, définitif, c'est difficile à dire, mais malheureusement, les choses n'ont pas évolué depuis. Mmh. Donc, tirer un trait sur ce passé perdu.
Elles n'ont pas évolué, et comme vous le dites très bien, tirer un trait sur ce passé, parce qu'il existe d'autres types d'amnésie, l'amnésie irréversible, neurologique, psychogène. Quelles sont leurs caractéristiques? Alors, je sais que c'est assez large, hein, ce que je vous pose comme question, mais à quoi sont-elles liées, ces différents types d'amnésie?
C'est ça. Ce qu'il faut bien retenir, c'est bon, la situation de Jacques-Michel Huret, c'est une situation singulière. C'est une amnésie d'identité globale, hein, puisqu'elle porte sur l'ensemble de sa vie, hein, les 30 années de passé de sa vie, et qu'elle est irréversible. Mais ce n'est pas le cas de tous les syndromes amnésiques. La plupart des syndromes amnésiques, contrairement à ce qui vient d'être décrit là, c'est beaucoup plus une difficulté à acquérir des informations nouvelles. Oui. Ce que n'a pas Jacques-Michel. Jacques-Michel, il apprend. Il apprend très très bien. Par contre, il apprend comme sur sa vie, comme si c'était une vie en quelque sorte de quelqu'un d'autre. Mais tout ce qu'on lui raconte sur sa vie, il s'en souvient très bien. Alors ça c'est quelque chose d'un petit peu atypique, parce que généralement, les amnésiques, au contraire, ont du mal à apprendre. Et ils se plaignent d'avoir du mal à apprendre. Et par contre, ils conservent, la plupart des amnésiques conservent leur identité. Mmh. C'est très très rare qu'un patient comme ça... Bon, évidemment, c'est une vision un petit peu cinématographique, envie de dire, hein, de l'amnésie, ou même dans des bandes dessinées, etc. Mais en fait, c'est très rare. Hein. C'est pas du tout la formule, j'ai envie de dire, habituelle de l'amnésie. L'amnésie, c'est beaucoup plus quelqu'un qui a du mal à se souvenir des informations qui passent au jour le jour.
Mais justement, docteur, que se passe-t-il dans le cerveau de quelqu'un qui oublie systématiquement des choses, comme vous nous en parlez?
Alors, très souvent, dans les syndromes amnésiques les plus courants, il y a des lésions du cerveau qui touchent un réseau, qu'on appelle un circuit, qu'on appelle le circuit de Papez. Et au cœur de ce circuit de Papez, il y a une région qui est très importante, qui s'appelle l'hippocampe. Mmh. Donc on a un hippocampe dans la partie droite de notre cerveau, un hippocampe dans la partie gauche de notre cerveau. Et quand ces deux circuits, le circuit donc de Papez à droite et à gauche, quand ces circuits sont endommagés, eh bien ça entraîne une difficulté à acquérir des informations nouvelles. Et c'est la situation la plus courante. Alors ça peut être lié à des étiologies très diverses. Ça peut être un traumatisme crânio-cérébral, ça peut être une maladie, comme une maladie dégénérative. Alors là, ça va se produire à bas bruit, mais par exemple dans la maladie d'Alzheimer, au début d'une maladie d'Alzheimer, on a des éléments d'amnésie qui ressemblent aussi à ça, avec des difficultés à apprendre des informations nouvelles. Ça peut être aussi une tumeur cérébrale, ça peut être un accident vasculaire cérébral. Vous voyez, toutes sortes de lésions qui va atteindre ces régions très précises, ce réseau cérébral très précis.
Professeur Francis Eustache, restez en ligne avec nous, car nous allons aborder aussi, juste après, la question de l'amnésie traumatique, car nous accueillerons Millet pour en parler. Elle a complètement oublié les viols qu'elle a subis jusqu'à ce que cela lui revienne d'un coup. Donc nous allons parler de cette amnésie, hein, comme quand le cerveau met comme ça naturellement un voile sur des actes, des choses qui se sont passées et qu'on veut absolument oublier. Vous restez avec nous, professeur.
Europe 1. On parle de l'amnésie cet après-midi, comment arriver à vivre sa vie quand on ne connaît plus son identité, quand on oublie une partie de son existence. On vous attend au 3921. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission créé pour vous, vous le savez, sur la page Facebook d'Europe 1. Amnésie définitive, transitoire, comment continuer sa vie sans mémoire quand ses souvenirs disparaissent? Vous avez été victime d'amnésie, vous n'hésitez pas à témoigner. Olivier Delacroix vous écoute au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Millet. Bonjour Millet, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous?
Alors, 46 ans.
Et vous nous appelez d'où, Millet?
De Lyon.
Alors, Millet, votre mémoire vous a fait défaut pendant 32 ans, autant de temps où vous avez oublié les agressions sexuelles et viols dont vous avez été victime lorsque vous aviez 5 ans. Comment tous ces souvenirs vous sont-ils revenus?
Alors, totalement brutalement. Oui. Ça a commencé d'abord par un choc émotionnel, une rencontre dans un cadre professionnel lambda, qui a provoqué des espèces de remontées de souvenirs hyper précis de ma petite enfance, mais des souvenirs un peu anodins, dans la cour d'école, voilà, la cantine. Et à la suite de ça, je ne comprenais pas pourquoi tout ça remontait comme des vieux jouets d'un grenier qui sortaient d'un coup. Et j'avais besoin d'avoir des réponses. Et en fait, j'ai été voir un hypnothérapeute. Oui. Alors, je connaissais rien à ces questions, mais je ne comprenais pas pourquoi d'un coup tous ces souvenirs revenaient avec en plus une précision incroyable, comme si j'avais une caméra à la main avec les sensations. Dans les deux minutes où cette hypnothérapeute m'a mis en état de semi-conscience, a surgi comme une bombe les souvenirs d'un viol que j'ai vécu à 5 ans, oui. Avec la même précision de souvenirs, c'est-à-dire je vois la gourmette de mon agresseur, je vois ses sous-vêtements, je vois la couleur, je vois, et je hurle son surnom, en fait.
Ouais. Voilà. Ça a dû être un choc... je suppose, terrible pour vous. Vous connaissiez à l'époque le terme d'amnésie traumatique ? C'était quelque chose dont vous aviez connaissance ?
Alors, absolument pas. Alors, vraiment, j'étais une bleue totale en matière de traumatisme, en matière, enfin, toutes ces questions-là.
Ouais.
Donc, vraiment, moi, j'ai pris ça comme une espèce d'explosion atomique et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que quand il y a des souvenirs qui ressurgissent de 32 ans en arrière et qu'on n'a pas effectivement les clés par rapport à tout ça.
Ça doit sembler totalement irréel, je suppose.
Ah, totalement. Ouais. Oui, c'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est vrai parce que mon premier réflexe, ça a été de me dire bah, c'est une vieille histoire, c'est hallucinant. J'oublie.
Ouais.
Et en fait, non, parce que je réessaie d'oublier, en fait, mais quand la boîte de Pandore s'ouvre avec son cortège de ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est-à-dire les émotions, les angoisses, les cauchemars, les reviviscences, qu'on revit le viol même en pleine journée,
ouais.
On ne peut plus refermer la boîte, malheureusement. Mmh. Voilà.
Combien de temps avez-vous mis à réaliser et à accepter ce qui vous était arrivé ?
C'est une bonne question, en fait. Je crois que j'ai mis bien plusieurs mois à naviguer entre « non mais c'est n'importe quoi » et entre « bah si, c'est vrai, ça t'est arrivé ». Et j'ai eu tout un processus comme ça jusqu'au moment où j'ai été déposer plainte. Et ça a été un processus hyper douloureux parce que je me disais « tu t'apprêtes à porter des accusations graves contre quelqu'un ». Et j'ai beaucoup observé ce qui se passait, mis en cohérence mes souvenirs. J'ai été voir la psychologue du commissariat, j'avais des éléments concrets, j'avais des éléments précis sur où ça s'était passé, etc. Mais il y a toujours, et dans les cas d'amnésie traumatique, et c'est hyper pénible parce que dans notre association, on voit ça aussi, un sentiment où on se croit pas, on se croit fou ou folle. Il y a un sentiment de déréalisation totale, quoi, en fait.
Ça doit être un sentiment terrible, d'ailleurs, à porter parce que je suppose qu'il existe dans le regard des autres lorsque vous racontez votre histoire. Je suppose qu'il se trouve là aussi, dans ceux qui vous écoutent et qui vous regardent. Est-ce que ça pèse aussi beaucoup ?
Alors, c'est énorme, ça pèse beaucoup. Moi, j'ai eu la chance que 99% de ma famille m'a cru.
Ouais.
C'est fou parce qu'après on refait le puzzle bout à bout, il y a plein de symptômes dans l'adolescence qui vont pas, il y a plein, enfin toute le fil classique des personnes qui ont été violées dans leur enfance. Mais je sais que il y a énormément de victimes qui se prennent du déni, qui se prennent des phrases du style mais oublie, t'es sûr que c'est arrivé, t'as pas de preuves, etc. On m'a dit que les preuves étaient fragiles, mais ça je m'y attendais. Bon, c'est toujours dur à entendre. Mais j'ai eu la chance de pas trop vivre cette situation qui effectivement est très classique parce qu'en fait les gens ils comprennent pas, ils arrivent pas à comprendre ce que c'est et c'est pour ça que merci de consacrer cette émission parce que c'est hyper important qu'on dise que ça existe et que c'est très fréquent.
Cela est très fréquent et les nombreuses victimes d'abus sexuels qui rencontrent de nombreux problèmes justement à se faire entendre. Revenons sur votre agresseur. Au moment où vous portez plainte, Millet, il est encore vivant cet agresseur ? Il est encore dans votre entourage ?
Alors, dans mon entourage proche, non, mais oui, il est encore vivant, il est auditionné.
Oui.
Et par rapport à ce que je vous racontais, il reconnaît tous les détails de mes souvenirs. C'est-à-dire, il reconnaît que oui, il était avec moi cet été-là, que oui, il m'a appris à faire du vélo, oui, il portait bien une gourmette, oui, il avait la barbe en collier. Mais évidemment, il ne reconnaît pas les faits.
Mmh.
Il menace de déposer plainte, qu'il n'a jamais fait. Et après, il est auditionné une deuxième fois parce que je voulais une confrontation. Parce qu'en fait, moi, pour moi, c'est un cauchemar de 32 ans en arrière. Et donc je voulais absolument être confrontée à lui, mais comme lui il était auditionné en tant que témoin, il a refusé la confrontation et l'enquête a été classée sans suite du fait de la prescription parce que les faits étaient prescrits. Voilà.
Alors on va continuer à en parler dans la suite de cette émission, puisque aujourd'hui vous avez fait de votre vécu un véritable combat et vous militez dans une association et nous allons pouvoir évoquer tout cela avec le professeur Francis Eustache.
Europe 1. Vous avez été atteint victime d'amnésie. Vous avez oublié un événement, une partie de votre vie, votre identité. Venez nous expliquer, nous raconter. On a envie de vous entendre sur Europe 1 au 39-21. Quand tout est à réapprendre, marcher, le nom de ses amis, le sens de certains mots, comment faire pour se rappeler? On parle de l'amnésie cet après-midi, partielle, totale. Ça vous est arrivé, l'un de vos proches? Vous nous faites part de votre témoignage au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec le professeur Francis Eustache, directeur d'une unité de recherche à l'INSERM à Caen, spécialisé dans les maladies de la mémoire. Et Millet, qui nous racontait son histoire il y a encore quelques instants. Millet, avant que nous échangeons avec le professeur Francis Eustache, j'aimerais que nous parlions de vous savez, votre combat, celui de faire reconnaître ce viol et puis la prescription, parce que c'est un de vos combats essentiels.
Oui, tout à fait, parce que en fait, être violé enfant ou adolescent, ça laisse des traces. Et nous, en fait, on a créé une association qui s'appelle Moi aussi Amnésie. On veut que l'impact psychotraumatique de ces viols soit reconnu dans la loi. Et on veut que l'amnésie traumatique soit reconnue dans la loi, de telle sorte à ce que quand les victimes retrouvent leurs souvenirs, si elles le souhaitent, elles puissent déposer plainte. Mmh. Donc que la prescription, justement, soit suspendue. Ouais. Et évidemment, on milite aussi pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, parce qu'on trouve que c'est un signe qui serait très important de dire aux pédocriminels que l'impunité comme aujourd'hui n'est pas garantie.
N'existe plus en tout cas.
Ouais. Ben voilà. Mm-hmm. Et pour nous, en fait, la prescription, c'est vraiment le pilier de l'impunité, de la pédocriminalité qui est dramatique en France. Mm-hmm.
Professeur Francis Eustache, nous venons d'entendre le témoignage de Millet, victime donc d'une amnésie traumatique. C'est un sujet très délicat. Comment notre cerveau peut-il se remémorer des faits des années plus tard et comment savoir si ces souvenirs sont vrais, s'ils ne sont pas altérés?
Alors, ce qu'il faut, il faut reprendre les choses à la source, en fait. Il faut bien comprendre que lors d'un traumatisme, qu'il soit unique ou que ce soit un traumatisme répété, dans tous les cas, il y a une atteinte de la mémoire. Mmh. Il y a une distorsion de la mémoire et qui peut prendre des formes extrêmement variées. Alors, dans le cas de Millet, que je viens d'entendre comme vous, c'est une amnésie traumatique, c'est-à-dire c'est une amnésie qui va durer des années, qui va durer même des décennies, si j'ai bien compris. Et puis à un moment donné, parce qu'il y a un déclic, parce qu'il y a la rencontre avec un événement déclenchant, quelque chose en quelque sorte qui rappelle l'événement traumatique, eh bien là à nouveau, il y a le souvenir qui va ce souvenir traumatique qui va se dérouler à la conscience de la personne. C'est pas toujours le cas. À un moment donné, Millet a parlé de syndrome de stress post-traumatique. Dans le syndrome de stress post-traumatique, il n'y a pas une amnésie complète, puisque la personne va oublier, dans certains cas, le contexte de ce qui s'est passé.
Oui.
Mais au contraire, il y a en fait plus des phénomènes d'hypermnésie. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui composent la scène traumatique, qui vont s'imposer à la personne de façon extrêmement régulière, de façon même récurrente, ce qu'on appelle les intrusions traumatiques. Et là, ce sont des images qui vont s'imposer à la conscience de la personne, et la personne a l'impression de les revivre au présent, ce qui va être terrible. Et la personne va essayer de se protéger contre l'irruption de ces éléments traumatiques. Donc là aussi, comme on l'a vu avec Jacques-Michel Huret dans la première partie de l'émission, il ne faut pas considérer que dans une situation traumatique, on a toujours le même scénario. Hein, ce n'est pas du tout le cas. Hein, donc dans le cas de Millet que l'on vient d'entendre tout de suite, c'est une véritable amnésie traumatique qui dure des années, qui dure des décennies. Puis à un moment, il y a une résurgence du souvenir ou d'une partie du souvenir. Donc ça, c'est un cas de figure hein, qui est malheureusement assez fréquent. Et puis dans d'autres cas, qui sont aussi extrêmement fréquents, c'est ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique ou le trouble de stress post-traumatique. Alors dans ce cas-là, la personne se souvient qu'il y a eu un événement traumatique, par exemple un attentat. Nous suivons ici des personnes qui ont été victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et dans la proche banlieue. Les personnes se souviennent de ce qui s'est passé, mais c'est un souvenir qui est relativement peu précis. Les éléments contextuels de ce qui s'est passé réellement sont peu précis. Par contre, ce qui est très très précis, et voire trop précis, ce sont des éléments très singuliers, par exemple des coups de feu, une odeur, et ces éléments-là vont revenir à la conscience de la personne de façon irrépressible. Mmh. Donc on voit bien, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'un événement traumatique, ça entraîne une distorsion de la mémoire, une distorsion qui peut aller, dans certains cas, jusqu'à l'amnésie totale, et dans d'autres cas, au contraire, vers des éléments d'hypermnésie. Alors, mais une hypermnésie qui va envahir la conscience de la personne, qui va tellement l'envahir que la personne a l'impression de revivre à nouveau l'événement traumatique.
Alors justement, je me tourne vers vous, Millet, quand vous entendez le professeur Stache parler de ces images qui reviennent et puis de ce réflexe de se protéger de ces images. Est-ce que vous avez vous-même douté de votre propre histoire? Comment ne pas se sentir trahi par son propre corps et se sentir en pleine possession de ses moyens?
Oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Il faut l'hypermnésie dont parlait le professeur Eustache, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'impression de revivre totalement, mais presque réellement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le sentiment de honte, de terreur totale, de sidération totale, on les revit au moment où les souvenirs ressurgissent. Et en fait, quoi qu'on fasse par rapport à votre question pour intellectualiser ou rationaliser en se disant « non, mais ça va pas », c'est tellement fort cette hypermnésie quand l'amnésie traumatique est libérée, qu'en fait, on est complètement... Enfin, moi, j'étais dans le corps d'une petite fille de 5 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a tout un combat, parce qu'on se dit... on croit qu'on est fou, on croit que ça ne va pas, on croit qu'on débloque. Et non, en fait, on est juste en train de revivre ce que Muriel Salmona décrit bien comme la mémoire traumatique. Mmh. Et c'est juste ça, en fait. C'est qu'on est à nouveau dans le corps d'une petite fille de 5 ans et on a à nouveau en face de soi un agresseur de 40 ans.
Mmh. Professeur Eustache, dans le cadre de l'amnésie traumatique, peut-on vraiment parler d'amnésie, d'oubli, ou est-ce plutôt une sorte de déni inconscient, un voile mis sur des événements terribles que le cerveau ne pourra intégrer que plus tard?
C'est une question difficile, parce que je pense qu'on peut parler d'amnésie traumatique. C'est le point de départ, c'est une amnésie traumatique. Et puis à un moment donné, peut-être qu'il y a les deux aspects qui se confondent. Vous voyez, il n'y a pas l'aspect conscient d'une part, l'aspect inconscient de l'autre. Je pense qu'à un moment donné, il y a cette période d'ailleurs que Millet vient de décrire, hein, où à un moment donné, elle se demande si c'est vrai, s'il faut lutter contre, etc. On voit qu'il y a une période un petit peu d'entre-deux. Donc je pense qu'au départ, il y a un mécanisme, comme on l'a vu chez Jacques-Michel Huret, qui est un mécanisme physiologique, même si on est en présence d'une amnésie traumatique psychogène, il y a une réaction du cerveau qui fait que l'événement est occulté, hein, il est mis au...
Comme effacé.
En fait, il est pas oublié de façon définitive, mais il est occulté, il est mis au deuxième plan de la conscience. Mmh. Et puis à un moment donné, pour des raisons qui peuvent être extrêmement diverses, bon, il y a le temps qui passe, hein, le temps a bien sûr son rôle, mais il y a aussi des éléments nouveaux qui vont survenir dans la vie de la personne, des indices hein, qui vont s'imposer à elle et qui vont faire en sorte que ce passé progressivement va ressurgir, ou tout du moins une partie de ce passé va ressurgir.
Comme chez Millet. Merci à vous, professeur Francis Eustache. Merci également à vous, Millet, pour votre appel et votre témoignage. Je rappelle, professeur, que vous êtes directeur d'une unité de recherche à l'INSERM à Caen, spécialisée dans les maladies de la mémoire. Nous allons accueillir dans quelques instants Marie-Christine. Son fils a été victime d'un grave accident de la route et depuis, il a d'importants troubles de la mémoire.
Europe 1. Comment retrouver le fil de sa vie lorsqu'on est victime d'amnésie, amnésie permanente ou temporaire, globale ou sélective, c'est votre histoire. Vous nous racontez au 39-21. Bien plus qu'un simple oubli, nous parlons de l'amnésie, vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous Marie-Christine et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 62 ans, je vous appelle de Montpellier, dans
D'accord.
le sud de la France.
Alors, Marie-Christine, votre fils a eu un grave accident de voiture à l'âge de 6 ans. Quels ont été ensuite les premiers symptômes de sa perte de mémoire ?
Alors, c'est compliqué parce qu'il est resté très très longtemps dans le coma. Et, ouais. et en fait, quand il est sorti du coma, il avait 6 ans. Donc, aucune acquisition scolaire, ni lecture.
Il est resté combien de temps en fait dans le coma ?
2 mois dans un coma profond et puis 1 an pour sortir du coma. Mmh. Et donc, il était temps de faire des acquisitions scolaires et c'est quand nous avons voulu le rescolariser ouais. que les problèmes ont commencé, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas ni à apprendre à lire, ni à compter, ni tout ce qu'il oubliait au fur et à mesure, tout ce qu'il apprenait. Mmh. Donc, c'est un oubli au fur et à mesure, le professeur Eustache en a parlé tout à l'heure. Ouais. Les traumatisés crâniens ont plutôt des oublis au fur et à mesure, ce qu'on appelle vulgairement la mémoire immédiate.
Voilà. Ouais, ouais. Mais donc, que vous a-t-on dit tout de suite qu'il ne retrouverait jamais la mémoire ou que ça évoluerait petit à petit ?
Alors, les médecins, les orthophonistes sont assez positif, c'est-à-dire ouais. qu'ils pensent toujours qu'il y a des possibilités de récupération, mais tout le monde a été très clair, le traumatisme était très grave, les lésions étaient très importantes et il était sûr que malheureusement, les endroits dans le cerveau qui régissent la mémoire avaient été endommagés, donc on savait ouais. que de toute façon c'était irrémédiable.
Mmh. Dans le cas de votre enfant, parle-t-on plutôt d'amnésie donc, ou de troubles de la mémoire ?
Non, c'est plutôt des troubles de la mémoire. Surtout ouais. chez les traumatisés crâniens, il n'y a pas 2 traumatisés crâniens identiques et les troubles sont en fonction de la localisation, de la topographie, de l'étendue des lésions. Et Vincent avait eu des lésions dans toutes les parties du cerveau, donc toutes les mémoires étaient endommagées.
Mmh. Voilà, souvent, me semble me rappeler, c'est que le traumatisme crânien, c'est souvent la partie frontale, hein, lorsqu'elle est touchée dans un accident, en fait, elle se trouve là, cette
oui,
partie.
Alors ça, oui, c'est ce qu'on disait avant. Oui, effectivement, il a eu un syndrome frontal, mais surtout, si vous voulez, dans le choc, le cerveau bouge dans la boîte crânienne, et ouais. la boîte crânienne, dans le traumatisme crânien, est souvent abîmée un peu partout.
D'accord.
C'est malheureusement pas que le syndrome frontal, il y a aussi tout le reste. Et le problème aussi chez eux, c'est qu'il y a une interaction des autres troubles, hein, c'est-à-dire des pertes de repères dans le temps, dans l'espace, des incapacités à planifier une tâche, c'est-à-dire... Par exemple, si vous lui apprenez à faire un chemin tous les jours pour aller je sais pas, au cinéma,
ouais.
vous allez passer des jours et des jours à lui apprendre ce chemin, il va prendre un bus. Si malheureusement, un jour, l'arrêt de bus ne fonctionne pas et c'est plus le bon arrêt de bus, Vincent, il va descendre, il va être complètement perdu et dans l'incapacité de retrouver son chemin. Alors que vous et moi, on sera en capacité de s'adapter et de retrouver notre chemin. Mais lui, il ne va pas être en capacité.
Comment avez-vous essayé donc de lui réapprendre sa vie ? J'avais envie de vous demander tout simplement au quotidien, comment est-ce qu'on apprend à un enfant dont on sait qu'il a des problèmes de mémoire ? Eh bien, comment on trouve des petits trucs ?
C'est dans la répétition. De toute façon, avec tous les traumatismes crâniens, qu'ils soient enfants et adultes, puisque toute nouvelle acquisition va être compliquée,
ouais.
on va être dans la répétition. Et puis aussi, on va se servir de ce qu'on appelle des béquilles, c'est-à-dire des outils,
ouais.
en fonction des compétences de la personne et de ses lésions. Ça sera un agenda électronique pour lui rappeler ses tâches. Moi, je me rappelle d'une personne que j'ai accompagnée. Elle oubliait d'aller chercher son fils à l'école. Elle est en capacité de se servir d'un agenda électronique qui sonnait, qui lui rappelait qu'elle devait aller chercher son fils à l'école.
Ouais.
Mmh. Par contre, ça peut être beaucoup plus compliqué. Je me rappelle cette jeune maman se disait « J'ai su faire la cuisine, j'ai su planifier les tâches ». Mais là, elle ouvrait son frigidaire, elle ne savait plus dans quel ordre elle devait faire les tâches et comment elle devrait préparer un repas pour son fils. Oui, chaque cas est différent. Et le problème, c'est que tous ces troubles interagissent entre eux, tous ces troubles différents de la mémoire, mais aussi tous ces problèmes de repérage dans le temps, dans l'espace, dans la planification d'une tâche, et amplifient encore plus le problème de mémoire.
Je crois savoir que... Allez-y, dites-moi.
Non, il y a aussi un problème chez les traumatismes crâniens où les personnes qui ont une lésion cérébrale acquise, peu importe que ça soit par AVC, par traumatisme crânien, par tumeur au cerveau, c'est aussi ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de leur trouble, en fait, de l'entièreté de leur trouble.
Ouais. Mmh.
Donc c'est pas leur problème ne va pas venir d'eux, c'est l'autre qui ne leur a pas dit, qui ne leur a pas répété, qui ne leur a pas... Alors on met en place beaucoup de choses, des post-it sur la porte d'entrée pour pas qu'il oublie de partir avec sa carte vitale, sa carte d'identité s'il doit aller chez le médecin, et sa clé. Et, vous voyez, tout ce qu'on peut mettre en place avec... il a un calendrier où il y a toute l'année, il barre tous les jours et il se situe comme ça dans l'année. Sinon, il ne sait pas où il est. Est-ce qu'on est en hiver, est-ce qu'on est en été? Il ne sait pas. Donc, on a un immense calendrier et tous les jours, il coche et il se situe dans le...
Quel âge a-t-il aujourd'hui?
Il a 36 ans. Aujourd'hui, il est en train de faire du ski.
Oui.
Alors, comme il a une hémiplégie, il est en ski fauteuil. Là, en ce moment, on l'a amené dans les Alpes dimanche. Voilà.
Oui.
Il vit dans un foyer d'accueil médicalisé. Alors qu'on a d'autres personnes traumatisées crâniennes qui pourront, elles, reprendre une activité professionnelle, par exemple. Chaque cas, chaque mémoire est affectée de façon différente et on pourra travailler avec chacun de façon différente, mais bien sûr dans la répétition, en mettant en place ces bébés.
Alors Marie-Christine, vous êtes aujourd'hui vice-présidente de l'UNAFTC, l'Union Nationale des Associations de Familles des Traumatisés Crâniens. Quel est le but de cette union, de cette association?
Le but, c'était de venir en aide à toutes les personnes qui subissent un traumatisme crânien ou une rupture d'anévrisme, ou un accident vasculaire cérébral, et leurs proches, de manière à les accompagner, à les aider, à les orienter. On a aussi beaucoup fait de lobbying. Donc maintenant, il existe des services d'accompagnement qui accompagnent les personnes qui vivent à domicile, des foyers d'accueil médicalisés, beaucoup de... On est beaucoup sur le logement inclusif aussi de ces personnes, en colocation ou en... On est aussi beaucoup sur le job coaching, les accompagner vers l'emploi, mais accompagner l'employeur, l'équipe, pour être en mesure de pallier à leurs déficiences. On a essayé de créer tout ce pool d'accompagnement pour les personnes, les familles, pour qu'enfin elles soient incluses dans la société, qu'elles aient un rôle, une place, peu importe lequel. Ça peut être quelquefois d'aller faire du bénévolat à la SPA, ça peut être...
Rappelez en tout cas, Marie-Christine, que grâce à l'Union Nationale des Associations de Familles des Traumatisés Crâniens, votre combat de tous les jours est celui de, comme vous venez de le dire, de trouver une place à chacun dans cette société, car chacun a sa place dans cette société. Voilà, aussi grand ou petit soit la mission, on a tous notre place et c'est le but de cette union. Et je rappelle que pour tous ceux qui sont concernés par un accident et un trauma crânien, vous pouvez contacter l'UNAFTC. C'est malheureusement la fin de cette émission. Merci beaucoup Marie-Christine pour votre appel et votre témoignage. Merci aussi à Jacques Michel, au professeur Francis Eustache. Merci à Millet de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Le cerveau est terriblement complexe, nous l'avons vu. Il arrive qu'en réaction à des événements violents ou pour s'en protéger, il occulte certains souvenirs ou même une vie entière, avant parfois que la mémoire ne ressurgisse. Se reconstruire est alors un travail de longue haleine. Il faut apprendre à se connaître à nouveau, à composer avec cette nouvelle vie. C'est le thème du film Bienvenue à Marouen, réalisé par Robert Zemeckis, j'ai décidément du mal, Zemeckis, qui sort dès aujourd'hui au cinéma et dont Europe 1 est partenaire.
Et vous pouvez continuer de discuter sur les réseaux sociaux, cette émission et les autres, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 ou via Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des familles recomposées. Peut-on les réussir et surtout comment? Composer avec les enfants de son conjoint, les ex, les beaux-parents, ce n'est pas toujours évident. Alors si votre famille recomposée est une réussite, si votre relation avec les enfants de votre conjoint ou de votre conjointe a brisé votre couple, si vous avez grandi dans une famille recomposée et que ça s'est super bien passé ou mal passé, eh bien vous nous appelez au 3921 pour nous parler de votre histoire et puis nous sommes là pour vous écouter.
Oui. À demain.
À demain, j'étais ravi de passer cette heure avec vous, ma chère Ombline, et je vous laisse maintenant avec l'excellente Laurence Boccolini sur Europe 1.
Europe 1.